Radio Okapi. Le journal Belinda Bosuma.
Dix morts et neuf blessés graves, bilan d'un accident de route survenu la nuit de mardi à hier mercredi près de Chicapa dans le Kasaï. Le camion transportant des sacs de maïs et des passagers de Chicapa vers Kikwit s'est renversé suite à l'excès de vitesse. La louche Mbujimayi demande à la CENI de sursoir à la commande des machines à voter. Recommandation faite mardi dans une conférence de presse tenue à Mbujimayi. Dans ce journal, la déclaration de ce mouvement citoyen. Et puis, l'État congolais appelé à financer l'agriculture afin de relever le défi de la sécurité alimentaire en RDC. Recommandation faite par la Fondation Konrad Adenauer et l'ONG Océan. C'était à l'issue d'un atelier cette semaine à Kisangani. Dossier à suivre dans ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par cet accident de circulation survenu la nuit de mardi à hier mercredi près de Chicapa dans la province du Kasaï. Le bilan fait état de 10 morts d'après une délégation du gouvernement provincial qui s'est rendue sur le lieu du drame. Le camion accidenté quittait la ville de Chicapa dans le Kasaï à destination de Kikwit dans la province du Kwilu. Les victimes ont été inhumées sur place hier. D'autres détails avec André Kambala.
Des témoins indiquent que ce camion transportait une importante cargaison de sacs de maïs et de passagers. Arrivé sur une pente au niveau du village Kibulungu, à près de 20 km de Chicapa, il s'est renversé faisant 10 morts et 9 blessés graves. Parmi les morts, un homme, 7 femmes et 2 enfants de moins d'un an. L'on ignore encore ce qui a occasionné le renversement du camion. La délégation du gouverneur du Kasaï, comprenant son vice et 2 ministres, est arrivée sur place mercredi matin. Elle a ramené les 9 blessés à l'hôpital général de référence de Chicapa. De l'accident, on fait savoir à la délégation que l'accident a été causé par l'excès de vitesse. Le conducteur était en état d'ébriété après s'être enivré au poste de contrôle de Kachongo, ont-ils également révélé. Ce camion, qui appartient à un opérateur économique de Chicapa, a été affrété par le Programme alimentaire mondial. Jusqu'ici, pas de réaction de la part de cette agence des Nations Unies, ni du propriétaire de l'engin. De Kananga, André Kambala, Radio Okapi.
Un autre accident, cette fois des navigations, est survenu lundi soir au chenal du fleuve Congo entre Kinshasa et la localité Kwamout, mais nous ne l'avons appris qu'aujourd'hui. Il s'agit de la baleinière dénommée HB Mbeli Mbeli qui s'est rendue à Mbandaka. Elle a coulé avec plusieurs passagers à bord dont le nombre n'est pas connu. C'était au niveau de la localité Kunzulu, un endroit où survient des accidents chaque année selon des témoins. Le calme est revenu ce matin dans la cité frontalière de Kasumbalesa. Nous sommes à 90 km de Lubumbashi, cela quelques heures après des échauffourées entre la police et la population qui protestaient contre l'insécurité dans leur milieu. Selon des sources policières, 4 personnes ont été tuées la nuit dernière par des bandits armés au quartier Meleki, sous station. Une dizaine des blessés et quelques personnes interpellées. Récit des faits avec Colin Djouba-Moussampo.
Tout est parti vers 1h du matin lorsqu'un groupe de bandits armés a fait incursion dans une maison où habite un changeur de monnaie au quartier sous-station. Ils lui ont exigé de donner 10 000 dollars américains sous peine d'être tué. N'ayant pas répondu à leur exigence, ils l'ont abattu à bout portant. Ensuite, ils se sont introduits dans d'autres parcelles voisines où ils ont abattu 2 autres personnes après avoir emporté plusieurs biens de la maison, notamment des appareils ménagers. D'autres sources parlent de 6 personnes tuées au cours de ces cambriolages. Ce qui a provoqué la colère de la population qui n'a pas tardé à se soulever ce matin en brûlant de pneus et barricader la route qui mène vers Lubumbashi. La police est intervenue pour les disperser à l'aide des gaz lacrymogènes. Mais les manifestants s'en sont pris aux éléments de la police en jetant des projectiles. Bilan, plusieurs personnes blessées et 20 d'autres arrêtées. La situation est restée tendue jusqu'à 10h de ce matin. Toujours, selon les mêmes sources, une équipe de policiers a été dépêchée sur place en renfort. Pour l'instant, la situation est devenue calme et les activités commerciales ont repris, a indiqué la police. Lubumbashi, Colin Djouba-Moussampo, Radio Okapi.
Insécurité aussi dans la province du Bas-Zouélé. L'administrateur du territoire d'Ango dénonce l'intensification de la criminalité perpétrée par les réfugiés centrafricains dans son entité. Depuis janvier dernier, une centaine de ces réfugiés sont déjà auditionnés par la police nationale à Ango. Ils sont accusés de viol, vol et agression physique. La plupart d'entre eux, dont les dossiers sont transférés au parquet de grande instance de Bouta, attendent d'être transférés à Bouta pour répondre des griefs mis à leur charge. Anselme Massoua nous raconte.
Cette criminalité est plus vécue dans les localités des Apaï et des Dikito ainsi qu'au chef-lieu du territoire. Depuis le début de ces mois, déclare l'autorité territoriale, 10 réfugiés centrafricains ont été incarcérés à Apaï, 17 à Dikito et 32 dans la cité d'Ango. Parmi ceux arrêtés dans la cité, 5 sont poursuivis pour coups et blessures, 21 pour vol, 1 pour extorsion, 2 pour viol et 3 pour tentative de viol, affirme la même source. Sans déterminer le nombre, Joseph Kambili déclare que certains sont relâchés au niveau même de la police et d'autres se sont vu leur dossier transféré au parquet de grande instance de Bouta. À l'origine de cette criminalité, déclare le chef d'antenne de la Commission nationale pour les réfugiés, CNR Ango, l'oisiveté et le manque d'assistance. Hormis les 700 réfugiés hébergés dans les camps et pris en charge par le HCR, plus de 60 000 à Apaï, à Dikito et dans la périphérie de la cité d'Ango vivent depuis avril 2017 dans des difficultés énormes. Pas de soins médicaux, pas d'eau potable, ils mangent difficilement et la plupart passent nuit à la belle étoile. Pour la énième fois, Albert Kambembo lance un appel aux organisations philanthropiques afin de venir en aide à ces sinistrés centrafricains. Kisangani, Anselme Massoua, Radio Kapi.
Entre-temps, en Ituri, le programme de stabilisation de l'Est de la RDC Starec annonce qu'il a déjà un financement $1 million pour des projets de stabilisation du territoire de Djougou dans l'Ituri. Ce dernier a connu dans le premier trimestre de cette année plusieurs cas de meurtres, pillages, incendies des villages et des déplacements massifs des populations. Ces fonds viennent de plusieurs bailleurs des fonds extérieurs. Le point focal du Starec en Ituri l'a annoncé à Radio Kapi mardi après la présentation du rapport d'une mission d'évaluation des besoins qu'il a effectué à Djougou. Jean-Marc Mazio explique au micro de José Deschartes Menga.
Nous avons déjà obtenu au moins une enveloppe d'$1 million qu'on va aligner au niveau de Djougou. Mais cette enveloppe...
Donc vous avez un million promis ou bien un million qui sont déjà logés dans un compte?
Oui, donc écoute, les millions sont déjà dans la caisse de stabilisation. Ça veut dire que on attend seulement les programmes. Une fois les programmes, l'écriture, on termine l'écriture du programme, je crois qu'on va lancer le processus de contractualisation. Mais je voudrais ajouter que ces 1 million ne doivent pas couvrir seulement le dialogue démocratique. La grande partie de ces fonds vont se concentrer plus dans la restauration de l'autorité de l'État. Parce que nous avons compris les grands problèmes au niveau de Djougou. Et en visitant aussi les différentes entités, nous avons noté que même les colons insistaient beaucoup sur la présence de l'État en Djougou.
Et à propos des élections en RDC, le mouvement Lutte pour le changement section Bujimaï demande à la CENI de sursoir à la commande de machines à voter. La Loucha rappelle que la période allant du 20 septembre au 8 octobre 2018 est à consacrer à la préparation et l'impression des bulletins de vote. Ceci au terme des points des articles 38 et 39 du calendrier électoral. Plusieurs autres recommandations sont contenues dans la déclaration lue en marge de la conférence de presse de la Loucha à Bujimaï. Conférence tenue mardi. Un extrait de cette déclaration est lu ici par l'un des communicateurs Copernic Kabeya dans ses propos recueillis par Chris Mukand.
Ces exigences sont les suivantes. L'abandon pur et simple des machines à voter et les recours au vote traditionnel par papier. Les commandes des machines en cours doivent être immédiatement gelées. La CENI doit se préparer à respecter scrupuleusement les points 38 et 39 de son calendrier électoral qui prévoit du 20 septembre au 8 octobre de l'année en cours la préparation et l'impression effective des bulletins. La Loucha lance à partir du 3 septembre des manifestations citoyennes sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour exiger le retrait pur et simple des machines à voter et la mise en œuvre des recommandations du rapport d'audit de l'OIF, notamment à ce qui concerne la fiabilisation du fichier électoral par la suppression des électeurs fictifs ou ne remplissant pas les conditions légales.
Par ailleurs, ne baissons pas la garde, restons vigilants, le combat continue. C'est le message clé de la déclaration conjointe des organisations et mouvements citoyens de la société civile de la RDC, rendue publique hier à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. Dans cette déclaration, les membres des organisations et mouvements citoyens ont dit prendre acte de la non-candidature du président Kabila, mais ils considèrent que ce n'est qu'une étape franchie dans le processus de restauration de la légitimité au pays. Écoutez leur porte-parole, Hervé Diakese. Au micro d'Askin Zibiateur.
Il y a d'autres luttes qui s'annoncent parce que nous ne voulons pas de parodie d'élections. Que ce soit les politiques, que ce soit la sous-région, que ce soit tous les partenaires aux élections, on a exigé que nous puissions entrer dans un processus véritablement démocratique qui passe par le respect des accords de la Saint-Sylvestre, mais qui passe aussi par des élections qualitatives. Donc, transparence du fichier électoral, toilettage de tous les doublons, mais aussi quand même un environnement politique qui soit accessible à tous. Donc, liberté des réunions, liberté des manifestations publiques, liberté à tous les candidats de postuler. Donc, il y a encore beaucoup qui reste à faire. Quasiment tout reste à faire. Et nous, les acteurs de la société civile, nous, les mouvements citoyens, les Congolais debout et les autres partenaires, nous allons nous impliquer dans une mobilisation de la population. Dans cette action, nous sommes aussi à côté du comité laïque des coordinations. Nous allons donc recommencer nos actions de sensibilisation, de mobilisation pour amener notre peuple à contraindre ces systèmes à respecter nos aspirations de choisir librement nos dirigeants par des élections de qualité.
Pendant ce temps, le candidat Sami Badibanga a présenté hier à Kinshasa le projet de société qu'il compte réaliser s'il est élu président de la République. Pour le président du parti Les Progressistes, l'objectif de son programme est de tout changer pour tous en RDC. Il s'agit d'entreprendre, selon lui, des réformes dans trois domaines prioritaires, la sécurité, l'emploi et les finances. Sami Badibanga chiffre un budget annuel allant de 80 à 100 milliards de dollars et un produit national brut estimé à 500 milliards de dollars. Explication à Skenzi Biateur.
Dans ce programme de réforme, Sami Badibanga tient à garantir la sécurité des Congolais et de leurs biens. Il compte gérer dans la transparence les affaires publiques pour combattre la corruption qui détruit, selon lui, les finances publiques. Il projette de créer dans 5 ans près de 15 millions d'emplois en débloquant 1 milliard de dollars comme fonds communautaire pour aider la jeunesse à monter des entreprises, y compris des crédits agricoles au profit des cultivateurs.
Cette caisse agricole sera dotée dans un premier temps de 250 millions de dollars de fonds de l'État. C'est pour pouvoir donner des crédits à bas taux et permettre à ces différents agriculteurs de pouvoir s'acheter les outils nécessaires à leur activité.
Le nouveau contrat social de Sami Badibanga prévoit de mettre en place une allocation dénommée Sunga Libota de 100 dollars par mois aux mamans pour alimentation et l'éducation des enfants. En même temps, Sami Badibanga compte assurer la santé maternelle et infantile gratuite et l'éducation. Il prévoit de payer à chaque agent de l'État un salaire minimum de 250 dollars dans le cadre de la redistribution des richesses du pays. D'après Sami Badibanga, s'il est élu président de la République, les réformes qu'il va entreprendre en 5 ans pourront aider à combattre la pauvreté et la vie des Congolais va certainement changer.
Pendant ce temps, Bruno Tshibala poursuit sa mission de travail dans l'est de la RDC, cette fois-ci à Goma. Mardi, le Premier ministre s'est rendu à la petite et grande barrière qui sépare la RDC et le Rwanda. Objectif, c'est rendre compte du travail abattu par la commission mixte en charge de réglementation des frontières, mais aussi l'évolution des différents projets de construction des bâtiments frontaliers modernes. À cette occasion, il a appelé les services œuvrant à la frontière de respecter l'ordre établi. Bruno Tshibala, dans ses propos recueillis par Marc Marofimo.
Ici, spécialement, je devais voir des visus, parler avec la commission mixte qui s'attelle au règlement de la question frontière entre la RDC et la République soeur et du Rwanda. Il était question également de voir comment se présente l'ordre au niveau de la frontière entre nous et le Rwanda. Je viens de rappeler la nécessité de respecter cet ordre opérationnel en admettant que les 4 services qui sont habilités à opérer au terme du décret présidentiel pris en la matière. J'ai donc lancé un appel à tout le monde respecter les 4 services qui sont commis à opérer à la frontière et non 40 ou plus, parce qu'il s'agit de permettre à ceux qui ont pour tâche de faire leur travail au service de la République, principalement les services générateurs de recettes, de le faire dans des bonnes conditions.
Direction Mbandaka, le personnel soignant qui a travaillé pendant l'épidémie à virus Ebola dans l'Équateur a manifesté hier en brûlant des pneus devant le bureau de la coordination de lutte contre cette maladie. Médecins, infirmiers et hygiénistes protestent depuis un mois et demi contre le non-paiement de leurs primes de prestation après avoir vaincu Ebola dans cette partie du pays. Il s'agit du personnel soignant des zones de santé de Mbandaka, Wangata et Bolenge qui était affecté au centre de traitement d'Yonda à 15 km de Mbandaka sur 93 3 médecins et infirmiers affectés à ce centre, 24 seulement ont été payés et pour le reste, on leur propose un taux inférieur, ce que déplore le médecin Babi Ekumbo, l'un des manifestants. Il est au micro de Dominique Wolombi.
La coordination de la riposte nous avait dit que la Banque mondiale, à cause de tout ce qu'il y avait comme fourberie dans cette riposte sur le plan administratif, il y a eu gonflement de l'effectif, beaucoup d'effectifs qui ont été payés à la place de vrais acteurs. La Banque mondiale a arrêté de payer. Le gouvernement congolais a promis aux acteurs $300 comme forfait. C'est là où nous trouvons que ce n'est pas correct et ce n'est pas normal. Pour un travail donné, il faut avoir le même salaire. On ne peut pas concevoir que pour le même travail, certains, pour prendre seulement l'exemple des médecins, ont bénéficié d'environ $3,884 et vous promettez à d'autres médecins de bénéficier $300. Pour prendre seulement l'exemple des médecins, vous trouvez que c'est injuste. C'est comme ça que nous disons, nous n'allons pas accepter de prendre ces $300. Nous voulons pour le même travail qu'on ait le même salaire, la même prime.
Aux dernières nouvelles, nous apprenons qu'une liste qui comprendrait un bon nombre d'effectifs serait remise à la Soficom Bandaka pour le paiement de cette prime des prestataires de santé. Mais toute tentative de joindre le ministre provincial de la Santé cité dans ce dossier n'ont pas abouti.
Actualité Afrique Monde.
En exil au Qatar, le fils de l'ancien chef de l'État sénégalais Abdoulaye Wade a été investi par son parti pour la présidentielle de 2019. C'est loin depuis Doha où il vit, depuis qu'il a été gracié en 2016 par le président Macky Sall, que Karim Wade est sorti de son silence hier pour se lancer dans la campagne pour la présidentielle de 2019. Condamné en 2015 pour enrichissement illicite, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade a profité d'un message adressé aux croyants à l'occasion de la fête de la Tabaski pour attaquer violemment le chef de l'État sénégalais, qualifié de beau parleur ignorant et incompétent. Dans ce qu'il qualifie d'ultime message, il promet au pouvoir des lendemains électoraux difficiles susceptibles de mettre en danger la stabilité du pays. Et puis, l'effondrement économique au Venezuela a tourné à la crise humanitaire. Selon l'ONU, 2,3 millions de Vénézuéliens ont migré en 2 ans. Près d'un million sont installés dans la seule Colombie. À titre de comparaison, 1,8 million de migrants sont entrés dans toute l'Union européenne en 4 ans.